Les cours du Collège de France, Jean-François Joanny, chaire matière molle et biophysique.
Je vous rappelle ce que j'ai fait la dernière fois, je vous ai introduit ces modèles pour la régulation de la cellule, où la cellule mesure la durée de son temps, la durée du temps de son cycle, que j'ai appelé un timer, où elle mesure la taille à la fin du cycle, que j'ai appelé un sizer, ou alors où elle impose l'addition d'un certain volume à son volume initial. Et puis je vous ai montré des modèles un peu microscopiques qui permettent de justifier notamment ce modèle d'addition de volume qui a l'air d'être celui qui est le plus représenté pour des cellules isolées en culture. Et j'ai bien mentionné que pour des cellules dans un tissu, dans certains cas, on retrouve des modèles où c'est la taille qui est mesurée, où il n'y a pas un modèle d'addition. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est reprendre ça, mais je vais essayer de discuter beaucoup plus en détail ce que j'ai appelé le bruit la dernière fois. C'est-à-dire, j'ai discuté que des valeurs moyennes. Il y a des fluctuations de cellule à cellule, il y a des fluctuations de la durée du temps de cycle d'une cellule. Et c'est ces effets-là que je voudrais discuter. Et puis, à la deuxième partie du cours, je discuterai non pas une cellule isolée, mais une collection de cellules. Et je comparerai le temps de croissance de la collection ou le temps de croissance de la colonie au temps de croissance en volume d'une cellule individuelle. Donc c'est ça les deux plans pour aujourd'hui. Donc la première partie, je vais continuer dans le même chapitre, hein, je vais appeler ça modèle de régulation de la taille des cellules. Alors d'abord, ce que je veux discuter, c'est quel est le volume à laquelle une cellule se divise, donc volume d'une cellule à la division. Donc je vous rappelle ces trois modèles. Ce que je vais définir, c'est le volume d'une cellule quand elle naît, donc au début du cycle. Ça va être le volume à la naissance. Et puis je vais définir un volume VA qui n'est pas le volume de la cellule quand elle se divise, mais que le volume que la cellule souhaiterait avoir quand elle se divise. Donc ça serait le volume cible à laquelle la cellule a envie de se diviser. Donc ça serait un peu le volume théorique à laquelle la cellule aurait envie de se diviser. Ce que je vais supposer aujourd'hui, c'est que la croissance des cellules est exponentielle. Donc le volume croît exponentiellement avec le temps. Ça veut dire que VA, c'est le volume initial. K, c'est le temps de croissance. Vn, c'est le volume initial. Et ça, c'est le volume auquel la cellule aurait envie de se diviser. Donc ça, c'est le temps visé par la cellule pour se diviser. En gros, ça, c'est deux fois, hein, parce que la cellule va se diviser quand elle aura atteint deux fois plus ou moins le volume initial, à part dans des circonstances un peu particulières. Donc la façon dont ça se passe en réalité, c'est qu'il y a des fluctuations, il y a du bruit. Donc le vrai volume à la division, je vais l'appeler VD. Il est différent de VA à cause des phénomènes de bruit. Et c'est ces effets de bruit qui vont m'intéresser. Si la cellule croît exponentiellement sur tout le cycle, le vrai temps de division, il est tel que VD égale VN exponentielle KTD, où ça c'est le temps de division qui est un peu différent du temps TA parce qu'il y a ce phénomène de fluctuation. Donc je vous ai donné trois modèles la dernière fois. Alors je vais mettre les noms anglais. Hein. Un modèle qui était un timer. Dans le modèle de timer, ce que la cellule choisit, c'est le temps Ta qui est là, et puis il y aura des fluctuations autour de ce temps Ta. Il y a un modèle qui est un modèle de Sizer. La cellule choisit sa taille à la division. Si elle choisit sa taille à la division, la taille à laquelle elle se divise est indépendante du volume initial. Donc je vais écrire que VA, je vais mettre un facteur 2 parce que quand elle se divise, elle se coupe en deux, et si la division est symétrique, les deux parties sont égales. Donc c'est quelque chose comme 2 fois V0. Et puis il y a un modèle d'Ader qui est VA. Alors c'est VN, volume initial, et puis j'ajoute un volume constant. Et ce que je vous ai montré, c'est qu'au fur et à mesure des divisions, le volume de la cellule relaxe vers cette constante de volume ajouté qui est delta. Donc après quelques divisions, il y a relaxation vers ce volume delta qui est là. Alors les modèles théoriques dont je veux vous parler, ils ont à peu près tous été faits par un seul groupe, qui est le groupe d'Ariel Amir. Et rouge. Qui est à l'Institut Weizmann en Israël et qui sera là la semaine prochaine pour faire un séminaire. Ce que fait Ariel Amir, sa première hypothèse, c'est que le volume VA, qui est le volume cible, c'est une fonction uniquement du volume de la cellule dans son état initial. C'est-à-dire c'est une fonction uniquement du volume Vn. Donc il introduit une fonction Va égale f de Vn. Si je connais le volume initial, hein, c'est ce que me disent ces trois choses-là. Si je connais ici, ça va être exponentielle kTa. La fonction, ça va être une constante ici. Et là, ça va être une fonction linéaire avec un offset que j'appelle delta. Ce qu'il fait après, c'est qu'il dit, je vais essayer d'utiliser tous ces modèles ensemble, et donc je vais choisir une fonction f de Vn qui me permet de retrouver ces modèles-là, et qui en plus va me simplifier les calculs. Alors celle qui fait, elle n'est pas tout à fait intuitive. F de Vn, c'est 2 fois Vn puissance 1 moins alpha, et puis un volume V0, puissance alpha. Donc le 2, il a la même justification qu'ici, c'est que je vais couper la cellule en deux. Donc cette quantité-là, c'est le volume visé à la génération suivante si la division est symétrique. Alors, il y a deux cas particuliers qui sont simples. Il y a le cas où alpha est égal à 0. Si alpha est égal à 0, VA est égal à 2VN. Et ça, c'est un timer. Ce que ça vous dit, c'est que exponentielle kt fois a est égal à 2. Donc le temps de cycle, c'est 1 sur k que multiplie log de 2. Exponentielle ktt. Ça, c'est le temps de doublement du volume. Après, je vais garder alpha comme un paramètre. Et on peut essayer, je vous montrerai des données tout à l'heure, de regarder ce que va être alpha pour des valeurs intermédiaires. Il s'avère que pour pas mal de systèmes, comme les bactéries ou les levures que je vous ai montrées la semaine dernière, alpha est à peu près égal à 1,5. Donc ça serait le modèle de Ader. Puisque j'ai argumenté la semaine dernière que tous ces constituants comme les bactéries et les levures travaillent plutôt dans ce mode de régulation qui est un mode par addition de volume. Alors pour justifier ça, ce que fait Ariel Amir, c'est qu'il dit en fait, les fluctuations de volume sont toujours faibles. Donc je vais pouvoir développer la fonction f autour de la valeur moyenne. Donc je vais écrire que f de v, c'est f de la valeur moyenne de v. Plus f' de la valeur moyenne de b fois v moins valeur moyenne de v. Et ensuite, il argumente, et on verra pourquoi tout à l'heure, que la valeur moyenne de v, si les fluctuations sont faibles, avec la fonction qu'il a écrite, elle est à peu près toujours égale à v0. Donc la valeur moyenne de v, c'est à peu près v0. Ça veut dire que ça me donne f de v égale f de v0. Alors le f de v0, il est construit pour ça, ça fait 2 fois v0. Plus f' de v0, f' de v0, vous pouvez le calculer, ça fait 2 fois 1 moins alpha. Fois v moins v0. Alors pourquoi 2 fois 1 moins alpha? Le 2, il vient de là, et le 1 moins alpha, c'est la dérivée de cette loi de puissance qu'il a. Et alors ça, c'est la formule linéarisée, hein, c'est pas mon modèle initial. Elle me reproduit tous les comportements que je souhaite. Si je fais alpha égale 1, j'ai bien un sizer. Si je fais alpha égale 0, je vais plus 2 fois v moins v0, 2v0 plus 2 fois v moins 2 fois v0, ça fait 2v. Donc le volume final, c'est 2 fois le volume initial. Ça, c'est quelque chose que j'obtiens en régulant le temps pour la durée du cycle. Et puis, si je fais alpha égale 1/2, 1 moins 1/2, ça fait 1/2. Ça fait 1. Donc ça fait v moins v0 plus 2v0. Donc pour alpha égale 1/2, j'ai bien un modèle d'addition. Le volume final, c'est le volume initial plus une quantité. Et cette quantité, c'est delta égale v0. Alors cette fonction, elle est un peu compliquée. Moi, la première fois que je l'ai vue, je me suis dit, mon Dieu, pourquoi il va chercher quelque chose comme ça? Vous allez voir que si on essaye de faire des calculs quantitatifs, ça facilite le calcul de façon extrêmement importante, et on pourra toujours prendre les comportements limites qui nous intéressent, ou trouver que la cellule n'est pas tout à fait un adder, pas tout à fait un sizer, et dans ce cas-là, on pourra avoir des valeurs de alpha qui sont un peu différentes de 1,5, un peu différentes de 1 et un peu différentes de 0. C'est ce que j'avais appelé, enfin pas moi, Mathieu Piel, dans ses articles, appelle ça un near adder, c'est-à-dire que la cellule est presque un adder. Ça correspondrait à alpha, pas tout à fait égal à 1,5, mais proche de 1,5. Je vous rappelle que le cas alpha égale 0, qui est le cas du timer, il est un peu spécial, parce qu'on a vu que le volume de la cellule croissait de façon exponentielle, que les fluctuations croissaient de façon exponentielle. Donc s'il n'y a pas de modèle de régulation autre que le temps, c'est complètement instable, les cellules vont devenir de plus en plus grosses au cours du temps. Donc alpha égale 0, ça joue un rôle un peu spécial dans mon histoire. Alors, maintenant il faut mettre du bruit, et en gros la philosophie, c'est que toutes les quantités physiques peuvent avoir du bruit. Donc il y a des fluctuations de toutes les quantités physiques. Ça veut dire que je peux considérer, par exemple, qu'il y a un bruit sur la variable VA, c'est-à-dire que le volume à laquelle la cellule va se diviser, c'est un volume fixé VA qui dépend du volume initial, plus un bruit. Si ce bruit est petit, en général, les gens considèrent qu'il est gaussien. Donc je vais l'appeler xiV. Une deuxième quantité qui peut fluctuer, c'est le temps de cycle. Ce que j'entends par là, c'est que au lieu d'avoir un TA qui serait donné, je vais écrire que TD, le temps de division, TA, plus un bruit que je vais appeler excité. Ça, c'est la fonction du volume initial que j'ai écrit là-bas. Et au-delà de cette valeur cible VA, de cette valeur cible TA, j'aurai un bruit excité que je vais considérer comme gaussien. Il y a des fluctuations du taux de croissance. Ça, c'est ce que j'ai appelé K. Ça veut dire que si je prends une cellule au hasard, son taux de croissance, ça ne sera pas K, ça sera K plus delta K, ou delta K peut être positif ou négatif. Toujours pareil, je vais supposer que le bruit est petit, mais je discuterai à la fin, ces fluctuations de delta K sont importantes quand on regarde une colonie, parce que toutes les cellules ne croissent pas avec la même vitesse. Puis la dernière chose qui peut fluctuer, c'est depuis tout à l'heure, je vous dis, la cellule se coupe en deux, mais il peut y avoir aussi une incertitude là-dessus, ça veut dire qu'elle peut faire une fille un peu plus grande et l'autre fille un peu plus petite. La seule chose qu'on veut, c'est conserver le volume total. Donc la division peut ne pas être symétrique, et je vous ai montré un exemple de bactérie où elle n'était pas symétrique, elle peut ne pas être symétrique en moyenne, mais elle peut aussi être symétrique en moyenne et puis avoir, de façon statistique, une des cellules qui est plus grande et l'autre qui est plus petite. Donc c'est la symétrie de la division qui peut fluctuer. Alors les gens ont utilisé toutes ces choses-là. Le plus simple à faire, c'est de regarder le bruit sur VA. Si je fixe le volume initial, je vais écrire que le volume VA est fixe, et je vais écrire que le volume VD, c'est VA plus XIV. Ça veut dire que si je considère que la distribution du bruit est gaussienne, la distribution du volume final est gaussienne. Il y a une autre variable qui est celle que considère Ariel Amir, c'est de dire que ce qui compte, ce n'est pas tellement le temps sur le volume, c'est pas la fluctuation sur le volume, c'est la fluctuation sur la durée du cycle. TD, c'est TA plus XIT. TA, je sais le calculer ici. Il peut y avoir des fluctuations de TA, ça veut dire que dans ce cas-là, c'est la variable TD qui a une distribution gaussienne. Alors TA, il est ici, hein. C'est un logarithme de VA. Donc ça veut dire que ce qui a une distribution gaussienne, c'est le logarithme. Ça, c'est ce qu'on appelle une loi log normale. Le plus simple à faire, c'est ça. Il s'avère que, en tout cas, c'est ce que dit Ariel Amir, sur les figures, ce n'est pas entièrement flagrant. Hein. C'est plutôt une loi qui est dissymétrique. La principale différence entre une loi normale et une loi log normale, c'est que la loi normale, elle est symétrique autour du maximum. La loi log normale, elle augmente avec une pente plus grande et puis elle décroît avec une pente plus petite. Donc c'est plutôt ce genre de choses qu'ils considèrent comme dominant. On peut traiter les deux ensemble et au moins qualitativement, ça ne change pas les résultats qu'on a quand XIV est égal à zéro. Les gens ont fait ça, je vais me contenter de traiter uniquement ce bruit excité. Je vous parlerai des fluctuations de la croissance à la fin, et puis je vous montrerai une expérience qui est la même que celle que je vous ai montrée la semaine dernière, où c'est la symétrie de la division qui apparemment donne le bruit principal. Donc voilà ce que je veux faire. Je vais écrire que TD égale TA plus XIT. Je vais supposer que la valeur moyenne de XIT est égale à 0. La valeur moyenne de XIT carré, ça c'est la variance. Je vais l'appeler sigma T carré. XIT c'est un temps, donc sigma T c'est un temps. La seule chose à laquelle je peux le comparer, c'est au temps cible qui est 1 sur K ou 1 sur K log de 2. Typiquement, c'est 0,1, 0,2. Donc sigma t fois k. Quelque chose comme ça. Ça, c'est ce qu'on obtient pour les bactéries. Mais ma fonction f, elle est définie telle que VA est égal à f de Vn. Alors, TA, c'est 1 sur K. Où est-ce que je l'ai écrit? C'est 1 sur K. Log de VA sur VN. Comme ça, VA, c'est exponentielle K fois TA. Plus le bruit cité. Alors, ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que j'introduise là-dedans ma fonction f. Ce que je vais faire, c'est que je vais considérer une variable que je vais appeler x, qui est log de Vn sur V0. Alors, je vais regarder x à la division. Ça, c'est log de Vd sur V0. Et Td, c'est 1 sur k log de Vd sur Vn. Donc si je mets log de Vd sur V0 ici, je vais avoir... Non, c'est log. Donc je vais avoir log de Vn de Vd sur V0 égale log... Ça, c'est log de Vd sur Vn plus log de Vn sur V0. Ça, c'est log de Vd, le VA sur V0 plus k cité plus log de Vn sur V0. Après, je peux utiliser ma fonction f qui est ici. Donc ça fait log de 2 plus 1 moins alpha log de Vn sur V0. Je l'ai écrit de travers, non ? Plus K cité, je me suis emmêlé, bêtement. En mettant log de 1 moins alpha ici, j'ai absorbé ce log de Vn sur V0 qui est là. Donc ça me dit que x à la division, c'est log de 2 plus 1 moins alpha xn plus k cité. Donc voilà dans ce modèle où je suppose que le volume cible est donné par la fonction f et où le bruit est sur le temps. Comment varie x à la division en fonction de x à la naissance de la cellule et du bruit. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de regarder des générations successives de bactéries. Donc, je vais regarder le volume initial à la génération i plus 1, donc x i plus 1. X i plus 1, c'est la moitié le volume à l'étape i plus 1, c'est la moitié du volume à la division de l'étape précédente. Donc ça veut dire que ce log de 2, quand je vais diviser le volume par 2, il va disparaître. Et ça, c'est 1 moins alpha xi plus k xi t. Et je vais mettre un i à xi t parce que c'est le bruit à l'étape xi t. Je vais faire deux hypothèses, enfin une hypothèse, mais qui implique autre chose. Je vais supposer que les bruits à des générations successives ne sont pas corrélés. Ce que j'entends par ça, c'est que si je regarde l'étape i, j'aurai un bruit, quand je passe de xi à xi plus 1, j'ai un bruit xi. Si je regarde l'étape i plus 1, j'ai un bruit xi i plus 1. Et ces deux bruits-là sont complètement décorrélés l'un de l'autre. Donc il n'y a pas de mémoire sur le bruit d'une division à l'autre. Si ça c'est vrai, le bruit xi n, il est complètement décorrélé de xi t parce que ça, c'est la taille à la naissance, et ça, c'est le bruit que j'ai à la fin du cycle. Et comme c'est complètement décorrélé, il ne saura pas quel était le bruit avant. Donc là, ça veut dire, si les bruits sont décorrélés entre eux, ça veut dire que xn et xi t ne sont pas corrélés. Donc voilà ce problème, c'est un problème statistique qui est extrêmement simple, parce que si je veux xi plus 1, je peux l'écrire en fonction de xi et c'est linéaire, puis après j'écris xi en fonction de xi moins 1, et donc simplement en faisant un calcul par récurrence, je vais calculer xi plus 1 en fonction de x0. Alors, je vais mettre xi, je vais mettre la même chose que dans mes notes. C'est x0 si j'avais que ce facteur là à chaque fois que je rajoute une génération je rajoute un facteur 1 moins alpha et donc il y a ce facteur là puis après il y a les facteurs sur les bruits donc plus somme de j égale 0 jusqu'à i moins 1. Alors, il y a un facteur 1 moins alpha donc j'itère cette formule là en partant de x0 et j'obtiens ce résultat là. Si vous regardez le premier terme, ça c'est le x à l'étape 0. Quand je le multiplie par 1 moins alpha, à chaque fois, si alpha est compris entre 0 et 1, il va décroître et il va tendre vers 0. Donc je vais regarder ma cellule après qu'elle a eu beaucoup de divisions, comme ça x0 sera égal à 0. Donc après beaucoup de divisions, donc je prépare ma cellule en les laissant bien se diviser. En plus, après, je prends une cellule un peu moyenne là-dedans, je pars de cette cellule-là, et je pars de x0 égale 0. Ça veut dire que xi, c'est juste le bruit qui est là, et c'est assez facile de calculer la valeur moyenne de xi carré. La valeur moyenne de xi carré, c'est une somme de bruits qui ne sont pas corrélés entre eux. D'abord, ça me dit que xi carré, xi est une variable gaussienne à cause de la loi des grands nombres. Donc xi est une variable gaussienne. Et puis quand je vais prendre le carré de cette somme-là, comme ces bruits-là ne sont pas corrélés, il n'y a que les termes où kxt au carré va apparaître. Ça me dit que ça, c'est égal à... somme sur i égale 0 à j moins 1. Kxt au carré en moyenne, si je suppose que le bruit a toujours les mêmes propriétés, à chaque étape, j'aurai le même bruit, donc j'aurai la même variance, donc j'aurai k sigma t carré. Et puis il y a le carré de ce facteur-là, donc ça fait 1 moins alpha au carré. Donc voilà le bruit de la variable x. Ça, c'est une série géométrique. Vous m'accorderez, donc je peux calculer la série géométrique. Faites-moi confiance. Et on trouve que sigma x au carré, au lieu de l'assommer jusqu'à... Pardon, c'est i moins 1 qui va mettre ici. Au lieu de l'assommer jusqu'à i moins 1, je vais supposer que i est grand, donc je vais l'assommer jusqu'à l'infini. Si je somme jusqu'à l'infini, les propriétés vont devenir indépendantes. Je vais avoir atteint un régime stationnaire, donc ça ne dépendra plus de i. Puis j'ai k sigma t au carré, et je vous laisse faire le calcul, c'est 1 sur alpha, facteur de 2 moins alpha. Il y a deux remarques là-dessus. La première, c'est que les valeurs que je vais considérer, c'est alpha compris entre 0 et 1. Si alpha est compris entre 0 et 1, 2 moins alpha est compris entre 2 et 1. Donc ça, c'est un nombre positif. Par contre, pour alpha égale 0, ça diverge. Alpha égale 0, c'est un timer. Pour un timer, je vous ai dit que la variance du volume divergeait. Donc la variance du logarithme du volume va diverger aussi. Et donc ça, c'est simplement que pour alpha égale 0, c'est un timer et on sait que le système est instable. Donc voilà la valeur moyenne du carré, du logarithme du volume. Maintenant, je vous ai dit que le logarithme du volume a une distribution normale. Ça veut dire que normal, ça veut dire que le volume lui-même a une distribution log normale. Donc le logarithme a une distribution gaussienne. Il suffit que j'utilise cette distribution gaussienne et je peux calculer la valeur moyenne de x, la valeur moyenne du volume. Et la valeur moyenne du volume au carré. Alors c'est... Je ne connais évidemment pas le résultat par cœur, donc c'est exp 0, exponentielle de k sigma t au carré sur 2 alpha 1 moins alpha. Ça c'est la valeur moyenne de V et la valeur moyenne de V2. C'est V0 carré exponentielle de 4 fois ça, donc 2 fois alpha 1 moins alpha. Donc voilà la valeur moyenne du volume. Si k sigma t est petit, la valeur moyenne du volume, ça va être à peu près V0. Par contre, si je veux la variance, il faut que je prenne la valeur moyenne de V2 moins le carré de la valeur moyenne de V. Donc si je calcule sigma V, donc la variance de V, je vais appeler ça sigma V au carré. Le sigma V, c'est l'écart type. Donc ça va être ça moins ça au carré, donc il va y avoir V0 carré fois exponentielle k sigma t au carré sur sur alpha 2 moins alpha, facteur de la même chose. Donc le moins 1, c'est la valeur moyenne de V au carré, et le premier terme, c'est celui-là. Alors ce que les gens aiment bien utiliser dans ces domaines-là, c'est ce qu'ils appellent le coefficient de variation. Oui, Martin, chez... Je n'entends pas ce que tu dis.
C'est pas 2 moins alpha.
C'est 2 moins alpha, oui. Merci. Je l'ai remis ici. Mais je n'aurais pas dû l'écrire comme ça. Donc ce que les gens utilisent, c'est ce qu'ils appellent le coefficient de variation. Ils appellent CV du volume. Ça, c'est le volume initial. Ça, c'est sigma V au carré sur module de V au carré. Ça, ça m'enlève ce terme-là. C'est exponentiel K sigma T au carré sur alpha 2 moins alpha moins 1. Et cette quantité-là, c'est simplement si k sigma t est petit, et si je suppose que alpha n'est pas égal à 0, c'est simplement k sigma t au carré sur alpha fois 2 moins alpha. Ça, c'est les fluctuations du volume par rapport... fluctuation du volume est entendue comme le carré de l'écart-type, divisé par le carré de la valeur moyenne du volume, c'est proportionnel au carré du bruit dans mon système, et le bruit dans mon système, j'ai dit que c'était le bruit sur le temps. Donc voilà pour les fluctuations du volume. Après, à partir de ça, je peux calculer plein de choses. Alors une chose qui va m'intéresser, c'est de regarder comment est-ce que le volume à un temps, à une génération I plus 1, est corrélé au volume à la génération I. Donc je vais calculer valeur moyenne de x i plus 1 fois valeur moyenne de xi. Alors je vais utiliser ma relation qui est là, je la multiplie par xi, et les choses sont extrêmement simples parce que ça, c'est pas corrélé à xi, la seule chose qui est corrélée à xi, c'est ça. Donc valeur moyenne de xi plus 1 xi égale 1 moins alpha fois xi au carré. C'est-à-dire c'est 1 moins alpha sigma x au carré. Ça s'annule pour alpha égale 1. Alpha égale 1, j'ai dit que c'était un sizer, c'est-à-dire c'est quelque chose où on régule la division en mesurant la taille, mais si on mesure la taille à l'étape i et à l'étape i plus 1, les volumes à l'étape i et à l'étape i plus 1 ne seront pas corrélés, et c'est ça que vous dit cette formule-là, c'est que si on a un sizer, cette fonction de corrélation, elle est nulle. Alors, ça c'est la valeur moyenne du logarithme de V sur V0, mais si les fluctuations sont petites, x, i, c'est logarithme de VI sur V0, et je vais écrire que VI plus delta VI. Ça veut dire que XI, si je reporte là-dedans et que je fais un développement limité, c'est juste la fluctuation sur le volume divisé par le volume V0. Une autre chose qui n'est pas tout à fait évidente, c'est que si alpha est compris entre 0 et 1, ceci est positif. La valeur moyenne de x est 0 parce que ma référence est x égale, c'est v égale v0. Ça veut dire que si x plus 1 est positif, xi plus 1 est positif, xi est positif. Et si xi plus 1 est négatif, xi est négatif. Donc si j'ai un volume plus grand à l'étape i, j'aurai un volume plus grand à l'étape i plus 1. Une cellule qui est trop grande par rapport à la moyenne, à l'étape d'après, elle reste encore trop grande par rapport à la moyenne. Et une cellule qui est trop petite par rapport à la moyenne, à l'étape d'après, elle reste encore trop petite par rapport à la moyenne. Alors, je ne vais pas vous calculer 36 valeurs moyennes. Il y en a deux ou trois qui sont intéressantes et qui permettent de tirer des conclusions. Je vais vous écrire les fluctuations du temps. Alors, le temps de division, alors, j'insiste sur le fait, hein, si vous voulez faire des exercices, que si vous arrivez à reproduire ça, tous les trucs que je vais vous montrer maintenant, on les reproduit de la même façon, ils ne prennent pas plus que deux lignes. Ce qui est simple, c'est de faire ça. C'est-à-dire d'écrire que xi, c'est delta v sur v0, et de calculer les fonctions de corrélation pour delta v, et comme ça, on a toutes les fonctions du volume. Alors, le temps de division, il est tel que KTD égale log de 2 moins... Alors... moins alpha x ça, c'est le logarithme du volume dans l'étape initiale. Ça, c'est le temps que va prendre le cycle à partir d'un volume initial qui est donné par x. Si je prends la valeur moyenne de x, c'est 0, j'ai dit. La valeur moyenne de ça, c'est 0. Pardon, il n'y a pas de moins. C'est moins alpha x. Donc, ça fait KTD égale log de 2. Donc il n'y a pas de surprise, hein. Pour doubler par 2, il faut que j'ai un temps de division qui soit exponentiel KTD égale 2, comme ça j'ai doublé le volume. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est de regarder les fluctuations du temps de division. Donc, je vais calculer delta TD pour la génération i, fois delta TD pour la génération i plus 1. Pardon, je vais calculer delta TD pour la génération i au carré d'abord. Je ne l'ai pas encore fait. Ça, c'est ce que je vais appeler sigma TD au carré. Ça fait 2 sigma x carré, 2 sigma t carré. Sur 2 moins alpha. La valeur intéressante, là, c'est alpha égale 0. Alpha égale 0, c'est un timer. Un timer, ça veut dire que je fixe le temps et j'ai des fluctuations sur ce temps-là. Et je vous ai dit, les fluctuations ne sont pas corrélées. Donc, si je regarde les fluctuations sur TD, c'est les fluctuations sur le temps. Et donc, si alpha égale 0, ça fait bien 2 sur 2, ça fait sigma t carré. Je tourne un peu en rond. Hein. Je vous ai dit, j'ai mis une fluctuation de variance sigma t carré sur le temps de division, et je retrouve la même fluctuation. Si alpha n'est pas égal à 0, cette quantité-là est plus petite, et donc la fluctuation est plus grande. Donc voilà pour les fluctuations du temps. Maintenant, ce que je peux calculer, c'est la corrélation entre le temps à la division à la génération i et le temps à la division à la génération i plus 1. Donc je peux calculer delta td de i. Delta td à la génération i plus 1. Alors, ça me donne moins 1 sur K2. J'ai deux temps. Et le temps caractéristique, c'est bien le temps de croissance qui est 1 sur K. Facteur 2, sigma 2 fois alpha 2. Ça, ça fait moins 1 sur K2. Alpha sur 2 moins alpha. Il y a un signe moins ici. Ça veut dire que si à l'étape I, le cycle est trop long, mon mécanisme de régulation y compense, et à l'étape I plus 1, il sera trop court. Donc là, il y a un mécanisme. Sur le volume, il n'y en a pas. Sur le temps, il y en a un, si alpha est compris entre 0 et 1. Cette chose-là est négative, donc si TI, delta TI est positif, delta TI plus 1 sera négatif et réciproquement. Donc il y a une compensation d'une génération sur l'autre. Je vais vous écrire le coefficient de variation. Parce qu'il apparaît après. Donc c'est CV. Ça, c'est valeur moyenne, ou c'est sigma TD au carré. Et la façon dont on normalise, c'est valeur moyenne de ça. Donc c'est valeur moyenne de delta TD Il faut que je prenne cette quantité-là, je la divise par celle-là, et ça, ça fait moins alpha sur 2. Je n'ai pas de changé de signe, j'ai simplement renormalisé par cette quantité-là, j'obtiens quelque chose qui est sans dimension, et ça fait moins alpha sur 2. Donc voilà les quantités que je voulais calculer. Si vous voulez faire un exercice, vous pouvez calculer les corrélations entre x et le temps de division. La corrélation entre x et le temps de division, elle est négative, parce que si je pars d'une cellule trop grosse, je vais être obligé de diminuer, je vais faire un temps un peu plus court pour compenser le fait que la cellule était trop grosse au départ. Donc voilà les choses qu'on peut regarder. S'il y a encore une chose dont j'ai besoin pour tout à l'heure, c'est que je vais calculer rho de t égale x à la génération i plus t fois x à la génération i divisé par sigma x carré. Et ça, c'est 1 moins alpha à la puissance t. Si alpha égale 1, j'ai un sizer. Si c'est un sizer, je fixe le volume à chaque génération, donc la fonction de corrélation ne décroît pas avec l'indice de la génération. Si alpha est plus petit que 1, ce nombre-là est plus petit que 1, et je perds la mémoire, donc au bout d'un certain temps, qui sera de l'ordre de tau a fois un logarithme de cette chose-là, ça va relaxer vers 0, ça veut dire que les générations suffisamment éloignées sont plus du tout corrélées avec les générations initiales. Oui.
Juste au-dessus, je pense que c'est plutôt la fonction de corrélation des deux temps, c'est pas le CV en fait.
Comment ?
Là, tu as dit CV, mais je pense que c'est la fonction de corrélation
au-dessus. Non, parce que delta TI plus 1, c'est ça. 1 sur K2, alpha sur 2 moins alpha. Et celui-là, c'est ça.
Donc, ça, c'est correct, mais c'est.
Il l'appelle CV. C'est pas normalisé par une valeur moyenne parce que la valeur moyenne est zéro. C'est pas le même que celui-là quand c'est des quantités différentes. Oui, si c'est ça, je suis d'accord. Je respecte les conventions que les gens font, mais ça m'a perturbé, je suis d'accord, moi aussi. Je vais vous montrer. Ah, mon ordinateur veut plus. Ah. Je vais vous montrer ce que suggère Ariel Almire comme expérience. Ce qu'il suggère comme expérience, c'est d'utiliser ces corrélations pour essayer de comprendre le mode de régulation du volume. Donc vous avez ici des expériences. Alors c'est des expériences qui sont faites avec la bactérie E. coli, hein, qu'il a regardé dans la littérature. Et ce qui est tracé là, c'est les points VI plus 1 VI. Donc vous regardez à la génération I. Vous utilisez ça comme ordonnée du point. Vous regardez à la génération I plus 1, vous utilisez le volume comme ordonnée du point. Et puis vous avez une espèce de patate, là, qui sont tous les points expérimentaux. Ensuite, vous moyennez pour une valeur de VI donnée. Et puis vous calculez ce que j'ai appelé le coefficient de variation du volume. Et il est quelque part ici, c'est 1 moins alpha. Coefficient de variation du volume, c'est CV de VI, VI plus 1. C'est la même chose que CV de XI, XI plus 1, c'est 1 moins alpha fois sigma x carré. Et quand vous calculez le CV, le sigma x carré s'en va, avec les mêmes conventions qu'on divise par le carré de l'écart type, et cette quantité-là doit être 1 moins alpha. Ici, avec ces points-là, le CV de VI, VI plus 1 qu'on peut calculer, c'est 0,49. Ce qui est très proche de 1,5, ça veut dire que la bactérie E. coli se comporte comme un adder qui a un CV de, qui a un alpha de 1,5. Elle rajoute une quantité de volume fini à chaque fois. Après, il prend cette valeur-là et il trace la droite ici qui donne VI, moyen en fonction, VI plus 1 moyen en fonction de VI. Et vous voyez que ça marche plutôt très bien. Il recommence après. Il met VI plus 2 en fonction de VI. Comme le RU est décorrélé, VI plus 2 n'est pas corrélé directement à VI, mais ils sont corrélés à travers VI plus 1, parce que VI plus 1 est corrélé à VI, et VI plus 2 est corrélé à VI plus 1. Donc on fait la même chose, hein. On calcule le coefficient de variation de VI et VI plus 2, à cause d'un calcul qui est à peu près le même que celui-là ici, hein. On va trouver que c'est 1 moins alpha au carré. Donc on doit trouver 1 quart. On trouve 0,24 avec ces données-là, et puis on trace la droite VI plus 2 en fonction de VI, en utilisant ce coefficient de variation, et le alpha qu'on trouve de là, on trouve cette droite-là. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il fait cette chose-là ? Ce qu'il a en tête, c'est que j'ai supposé que les bruits étaient complètement indépendants à chaque étape, mais la bactérie pourrait avoir de la mémoire, c'est-à-dire qu'à la génération I plus 2, elle pourrait encore se souvenir de la génération I. Et si ça c'était vrai, ça pourrait marcher ici et ne pas marcher là. Donc ce qu'il en déduit, c'est que son modèle où le volume à l'étape I plus 1 ne dépend que du volume à l'étape I, il est confirmé par ces choses-là. Alors, je ne vais pas vous dire ce qu'il a fait là, mais c'est une astuce pour ramener le coefficient de variation à zéro. Et ça marche très bien. Et parce que ça marche très bien, ça nous dit qu'il n'y a pas de mémoire de la génération I plus 2 à la génération I. Ici, vous avez une cellule qui se divise. Vous avez le temps de division de la fille en fonction du temps de division, en fonction du temps de division de la mère. Donc, c'est la même opération ici, sauf que le CV qu'on va mesurer, c'est le CD de TI plus 1 fois TI. C'est-à-dire, c'est celui que j'ai écrit ici, c'est moins alpha sur 2. Donc, si j'avais un adder, cette chose-là aurait une pente exactement un quart. C'est peut-être pas exactement un quart, je crois que c'est un petit peu moins qu'un quart, mais c'est quelque chose qui correspond bien à... Alors ici, vous voyez, c'est moins alpha 2 sur 2, c'est la moitié du... Où est-ce qu'il est, mon truc? C'est moins alpha sur 2. Donc ça serait un quart avec mon modèle. C'est un peu plus petit qu'un quart ici. Ça veut dire que là, il y a une petite distorsion par rapport à ce modèle qui est un peu ultra simplifié. Et puis surtout qui fait cette approximation que je peux utiliser ma fonction qui était ce 2 fois V à la puissance 1 moins alpha fois V0 à la puissance alpha. C'est pas parfait. On devrait trouver ici un quart, mais on ne trouve pas tout à fait un quart. Donc voilà ce que suggère Ariel Amir, c'est que calculer ces fluctuations, ça donne un moyen plus précis d'aller mesurer comment la cellule régule son volume. Et dans tous ces exemples qu'il traite, c'est la cellule et en gros quelque chose qui régule le volume par addition d'un volume fixé ou presque l'addition d'un volume fixé, ce qui est le cas ici parce qu'autrement on aurait la bonne fonction, le bon coefficient de variation. Je vais passer maintenant un peu à la deuxième partie dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire discuter la croissance d'une population. Donc c'est troisièmement. Quatrièmement. Peut-être les plus simples, c'est que je vous montre la première figure que j'ai ici. Ce que je veux discuter, c'est ça. C'est un réservoir où je mets une cellule, puis la cellule se divise en deux, elle a deux filles, et puis chaque fille se divise en deux, etc., etc. Et je construis un arbre généalogique des cellules qui sont en bas. Il y a plusieurs types de cellules sur cet arbre. Il y a les cellules qui vivent au dernier instant, c'est-à-dire les cellules qui existent à l'instant T. Alors, il voit ça comme un arbre, il appelle ça les feuilles. Et puis, il y a ce que je vais appeler les ancêtres. Les ancêtres, c'est à partir de la première ici, toutes ces cellules-là. Alors, combien j'en ai de chaque? Supposez que à chaque génération, je multiplie le nombre par 2. Donc, chaque cellule se divise en 2. Je vais généraliser ça, je vais diviser en nu. Donc, nu cellules apparaissent à chaque génération. si je pars d'une, à la deuxième, j'en ai nu, à la troisième, j'en ai nu deux, et puis à la énième, qui est la dernière, j'en ai nu puissance n. Donc les cellules feuilles, nu f, nu puissance n. Alors si je veux les ancêtres, à la première génération, j'en ai un, à la deuxième génération, j'en ai nu, à la troisième, j'en ai nu deux, nu trois, jusqu'à n moins un. Donc n ancêtres, c'est 1 plus nu, plus nu à la puissance n moins 1. Ça, c'est une série géométrique. Et la somme de cette série géométrique, c'est nu puissance n. Pardon. C'est nu puissance n moins 1 sur nu moins 1. Maintenant, si je regarde beaucoup de générations, vous m'accorderez que le 1 est négligeable ici. Ça, c'est Na. Et donc, j'ai Na égale Nf sur nu moins 1. Maintenant, si je regarde le cas réaliste, nu est égal à 1. Donc, dans un arbre comme ça, il y a la moitié des cellules qui sont dans la dernière génération, et il y en a la moitié qui sont dans toutes les générations précédentes. À ce 1 près ici, ça c'est vrai s'il y a suffisamment de générations. Une chose qui est plus subtile, c'est de regarder la probabilité qu'une cellule se divise. Que ce qui n'est pas évident, c'est que la probabilité, elle est la même, quelles que soient les cellules. Ça veut dire que je pourrais définir une probabilité moyenne qu'une cellule se divise en moyennant sur tout l'arbre. Alors, comment est-ce qu'il faut que je définisse la probabilité qu'une cellule se divise ? La probabilité qu'elle se divise, elle va dépendre depuis combien de temps la cellule a apparu, depuis combien de temps la cellule est née. Ça, c'est l'âge de la cellule. Donc, c'est une fonction de l'âge. Je vais l'appeler f de taux. Je pourrais prendre la probabilité qu'une cellule se divise pour les dernières cellules, pour les feuilles. Si je le fais sur les feuilles, donc je prends les cellules qui sont en rouge là-bas, je regarde à quel âge se divisent les cellules qui sont en rouge, ça va être une fonction différente, f1 de taux. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que ce n'est pas de façon évidente la même fonction ? Ce n'est pas de façon évidente la même fonction parce que pour se diviser un âge tôt, il faut que la cellule ne se soit pas divisée avant. Et ce n'est pas tout à fait la même chose pour les cellules qui sont des ancêtres et pour la cellule qui est fille. Donc si j'ai une fonction qui est un peu différente sur tout l'arbre et sur les feuilles, je réussis une fonction qui est différente sur les ancêtres. Alors elles sont reliées bien sûr, hein, parce que si je moyenne, ça je vais l'appeler f2 de taux, si je moyenne celle-là et celle-là, je dois retrouver la moyenne sur tout l'arbre. Donc si je vais écrire f de taux, ça sera nf fois f1 plus n ancêtre fois f2 divisé par nf plus NA. Et ça, si vous reportez les résultats que j'ai écrits ici, ça vous dit que c'est F1 plus nu moins 1 F2 sur 2. Si nu égale 2, ça veut dire que la probabilité qu'elle se divise, c'est la moyenne de la probabilité qu'elle se divise à la dernière génération et de la probabilité qu'elle se divise au niveau des ancêtres. Alors, ce qu'a fait Ariel Amir, c'est une simulation numérique. Il suppose que les générations sont décorrélées entre elles, donc que la statistique est décorrélée. Et puis vous voyez toutes ces fonctions ici. Donc en rouge, je n'arrive plus à lire malheureusement. C'est quelque chose que je n'avais pas prévu. Enfin, il y a ces trois fonctions qui sont là ici, et puis il y en a une quatrième qui est en rouge. La quatrième en rouge, c'est la probabilité qu'on se divise le long d'une lignée. Donc on considère une lignée cellulaire et on calcule la probabilité le long de cette lignée-là. Je vais l'appeler FL. Alors, le long d'une lignée, ça veut dire que je pars de cette cellule-là, je considère celle-là, puis celle-là, je descends comme ça d'une génération à chaque fois, et je moyenne sur toutes ces cellules-là la probabilité que la cellule se divise à un H taux. Ce que j'obtiens à la fin, c'est quelque chose d'un peu différent. Et là, la raison, elle est très claire, c'est que je vous ai montré que si je prends une cellule, son temps de division à la n-ième génération, ou à la i-ième génération, il est corrélé à son temps de division à la n plus 1-ième génération. Donc, ces cellules-là, elles sont corrélées entre elles. Par contre, si je moyenne sur tout l'arbre, je vais moyenner sur une cellule comme ça et une cellule qui est plus loin ici. Donc celles-là, elles ne sont pas corrélées entre elles. Donc il y a une corrélation supplémentaire et ça fait qu'on arrive à la courbe rouge qui est ici. On peut vérifier que la relation que j'ai écrite là est bonne et ça, c'est la moyenne entre les trois courbes qui sont de ce côté-là. Donc c'est un peu subtil cette histoire. Suivant la façon dont on définit la probabilité d'une cellule de se diviser, on va trouver des lois qui sont différentes au même âge. Alors, je vais aller un peu plus loin dans ce genre de direction. Ce que je vais essayer de vous montrer, alors il y a beaucoup de ces choses-là qui ont été faites dans les années 60. Par un mathématicien qui s'appelle O. Powell. Ces articles ne sont pas très difficiles à lire, c'est assez technique, il n'a pas peur de résoudre des équations différentielles compliquées, mais à la fin, à partir d'idées comme celles que je vais vous montrer là, il arrive à des tas de résultats qui pour moi ne sont absolument pas évidents et qui sont liés un peu au même genre d'effet que ce que je viens de vous décrire qualitativement. Donc ce qu'on suppose, c'est que la croissance des bactéries, enfin, alors, on le fait pour des bactéries, on suppose que la croissance est exponentielle. Ça veut dire que le volume d'une bactérie croît comme exponentielle kt. Je vais supposer aussi que la population croît de façon exponentielle. Ça, c'est quelque chose qui est observé dans toutes les expériences, toutes les simulations. Le nombre de cellules croît de façon exponentielle. Mais rien ne nous dit a priori que l'exponentielle est la même. Ça veut dire que le nombre de cellules n exponentielle lambda t, et la question que se sont posées des gens comme Powell, c'est est-ce que quand je mesure la croissance du nombre de cellules et la croissance du volume, c'est-à-dire la croissance d'une génération ou la croissance de toute la population, est-ce que je dois arriver au même résultat? Et si je n'arrive pas au même résultat, lequel des deux est plus grand? Donc c'est ça que je veux discuter dans le temps qui reste. D'abord, ce que je vais regarder ma population de cellules à un instant T. Et je vais appeler N de T et de taux la probabilité, le nombre de cellules qui, à l'instant T, ont un H taux. Et ce que je veux, c'est arriver à comprendre comment varie ce n de t et de taux en fonction de taux et du temps. Alors, je vais calculer la variation. Je vais faire un petit changement de temps en passant de t à t plus dt, et je vais calculer la variation de n. Mais si je change de t à t plus dt, je change le nombre total de cellules, donc il y a une variation par rapport au temps, mais je change aussi l'âge des cellules qui existent. Je vais écrire que dn sur dt sur plus dn sur dt, ça c'est le changement total du nombre de cellules petit n pendant un instant dt. Pendant un instant dt, ça va être proportionnel moins n de t et de t. Fois la probabilité que les cellules se divisent à l'instant T. Ça, c'est la probabilité que les cellules se divisent à l'instant T avec un H taux. Donc les cellules, elles changent, le nombre de cellules, il change quand je passe de T à T plus dT. Quand je passe de T à plus dT, T plus dT, je passe aussi de taux à taux plus dT, et ils changent parce que les cellules se divisent, et donc elles n'ont plus le même âge. Donc quand elles se divisent, je remets l'âge de la cellule à zéro, et puis elles recommencent à croître après. Qu'est-ce que c'est ce phi de taux? C'est la probabilité que la cellule se divise à un instant taux. Donc phi de taux, un H taux. Vous allez me dire, c'est facile, je suis en train de prendre une cellule au hasard, je vous ai dit que la probabilité qu'elle se divise, c'est F de taux, et ça va être F de taux que je vais trouver là. Ça ne va pas être F de taux que je vais trouver là, parce que je ne prends pas une cellule au hasard, pour la diviser, il faut qu'elle ait survécu jusqu'à l'instant taux. Donc ce phi, je vais définir un grand F de taux qui est somme de taux à plus l'infini de F de taux des taux. La somme de 0 à taux, c'est la probabilité que la cellule se divise entre 0 et taux. Et le complément pour aller à 1, qui est cette intégrale-là, c'est la probabilité que la cellule soit arrivée jusqu'à l'âge taux. Donc ça, c'est la probabilité que la cellule soit arrivée jusqu'à l'âge taux. Alors maintenant que vaut phi de taux, ben je vais écrire que f de taux, probabilité qu'une cellule au hasard que j'ai piochée se divise, c'est égal à phi de taux fois grand F de taux. En d'autres termes, il faut que je renormalise F de taux en divisant par grand F de taux pour normaliser sur toutes les cellules qui peuvent se diviser pour arriver à quelque chose qui a une probabilité dont la norme est égale à 1. Donc phi de taux c'est F de taux où F de taux c'est cette intégrale qui est là. Alors je peux reprendre mon équation d'évolution de la population. Donc c'est dn sur dt plus dn sur des taux égale phi de taux, et ça, ça dépend plus de t maintenant, fois n. Moins. Cette équation-là, du fait que j'ai la somme des dérivés ici, elle a une solution que j'appellerai stationnaire, qui est le produit d'une fonction de t par une fonction de taux. Donc je peux écrire que n de t et de taux égale n de t fois g de taux. Si n de t est le nombre total de cellules, g de taux à un instant t, c'est la probabilité que les cellules aient un âge tôt. Donc c'est la distribution d'âge de la population. Après, si je reporte cette solution dans l'équation, tout va être proportionnel à n de t, hein, donc je vais pouvoir oublier n de t. Si je suppose que n de t croît exponentiellement comme exponentielle lambda t, où je ne sais pas encore ce qu'est lambda, ça va me dire que lambda g de taux plus dn sur des taux égale moins phi de taux, g de taux. On peut résoudre cette équation. Elle est à variable séparable, donc il suffit d'intégrer cette chose-là. Et la solution que je vais vous écrire, c'est g de taux égale nu lambda sur nu moins 1 fois f de taux exponentielle moins lambda taux. Pourquoi il y a un facteur nu sur nu moins 1? Je suppose que chaque cellule se divise en n cellules. Si nu est égal à 2, il y a un facteur 2, hein, bien sûr, parce que chaque fois que je me divise, je crée 2 cellules. Si vous regardez quelque chose qui se divise en nu descendant, il y a un facteur nu sur nu moins 1. Donc f de taux, je le connais. Si tant est que je connais la fonction petit f de taux, et donc je connais la distribution d'âge de la cellule. Après, il y a un truc qui paraît un peu magique, c'est qu'une fois que j'ai écrit ça, je vous ai dit avec les mains, mais si je choisis n de t comme le nombre total de cellules, g de taux, c'est la fraction des cellules qui a un âge tôt. Ici, j'ai utilisé la condition à taux égale 0, c'est que j'en crée 2, enfin j'en crée nu chaque fois que je me divise, mais je n'ai pas utilisé cette chose que toutes les cellules ont un âge. Donc l'intégrale de G de taux des taux est égale à 1. Écrire que l'intégrale de G de taux est égale à 1, nu je le connais, c'est le nombre de descendants à chaque génération. F de taux, je le connais si je connais petit f de taux. Ça, c'est quelque chose qui se passe à une génération donnée. Je pourrais faire la simulation numérique d'Ariel Amir ou utiliser les modèles que je discutais au début du cours. Donc, j'arriverai à calculer petit f de taux. En gros, c'est une gaussienne hein, autour de la valeur moyenne qui est 1 sur k fois log de 2. La seule chose que je ne connais pas, c'est lambda. Donc, en écrivant que cette fonction-là est normée, je vais trouver une équation pour lambda. Alors, cette équation pour lambda, c'est... Il faut que je l'écrive correctement. 1 égale nu, somme de 0 à plus l'infini, de f de taux des taux. C'est une équation un peu compliquée, parce que ce que ça vous dit, c'est que si vous prenez la transformée de Laplace de la fonction f de taux, la transformée de Laplace pour la valeur de Laplace égale à lambda, qui est le taux de croissance de la population, multiplié par 2 ou nu, comme vous voulez, doit être égal à 1. Et ceci dit, j'ai une équation et une inconnue. Donc c'est ça qu'a montré Orwell. Il l'a montré l'année où je suis né, c'est-à-dire il y a très très longtemps. Et les gens écrivent encore des articles où ils éprouvent le besoin de redémontrer cette relation. Alors c'est vrai que son article original n'est pas infiniment clair et infiniment simple, mais enfin il est absolument indubitable qu'il avait cette relation-là. Il y a plusieurs articles qui refont ça. Il y a l'article d'Amir, et il y en a plusieurs. Il y a un article récent de quelqu'un qui s'appelle Jafarpour. C'est un article dans PhysRev. Il y a un peu plus que ça. Ils font des comparaisons avec des expériences. Et puis, ils supposent aussi que la division n'est pas symétrique. Mais en gros, ils utilisent la relation qui a été trouvée par M. Orwell. Ce que j'ai supposé quand même, c'est que les générations sont décorrélées. C'est-à-dire qu'à chaque étape, ce qui se passe est indépendant de l'étape suivante. Ce qui n'est pas vrai s'il y a régulation du volume. Parce que s'il y a régulation du volume, je vous ai passé presque une heure à vous calculer des corrélations entre le temps de division pour la génération n et le temps de division pour la génération n plus 1, le volume à la génération n et le volume à la génération n plus 1. Donc voilà quelque chose qui est extrêmement élégant, qui est dans une limite bien définie. J'insiste sur le fait que j'ai pris f de taux ici et j'ai pas pris tous les autres que je vous ai définis. C'est-à-dire j'ai pas pris le f suivant une lignée, j'ai pas pris celui des feuilles, j'ai pas pris celui des ancêtres, j'ai pris celui où j'avais moyenné sur toute la population. C'est une remarque importante parce que M. Amir élimine une partie des expériences qui ont été faites. Pas mal d'expériences suivent une lignée de bactéries et mesurent le f de taux sur une lignée de bactéries et l'injectent dans cette formule-là. Ça, c'est pas exact. Maintenant, la question, c'est si je prends des bactéries qui régulent leur volume, comme je l'ai décrit dans la première heure, est-ce que ce taux lambda va être égal à k ou est-ce que ce taux lambda va pas être égal à k? Ce que je ne vais pas faire, c'est que je vous ai dit que le f de taux était en gros une gaussienne, parce que j'ai mis le bruit sur le temps et que, en gros, toutes les variables temporelles sont plus ou moins à distribution gaussienne. Donc ça, c'est une gaussienne dont je connais la valeur moyenne. Je vous ai donné l'écart type du temps de division. Si vous injectez une gaussienne là-dedans, ce que vous trouvez, c'est que lambda est plus grand que k. Et si vous regardez des expériences dont Amir dit qu'elles sont bien faites, vous trouvez que lambda est plus petit que k. Alors il a un argument que je trouve magnifique et que je vais vous expliquer maintenant, puis après je vous montrerai des résultats. Alors, ce que dit son argument, c'est que si je mets du bruit que sur le temps, c'est-à-dire si le seul bruit que je mets, c'est excité, ça c'est le bruit sur le temps de division, et si les bactéries régulent leur volume, K égale lambda. C'est-à-dire le taux de croissance du volume d'une bactérie est égal au taux de croissance de la population. Le raisonnement est extrêmement simple. Ce que disent ces gens-là, c'est si je regarde le volume des bactéries, à tout instant, toute bactérie croît avec un temps K. Si je suppose que K est uniforme. S'il n'y a pas de bruit sur K, à tout instant, le volume d'une bactérie V, il est tel que V égale V0 exponentielle KT. Alors il y a un moment où ce n'est pas vrai, c'est quand la bactérie est en train de se diviser. Je vous ai dit qu'en mitose, par exemple, il y avait un overshoot, que la croissance cessait. Mais ça, c'est sur une toute petite partie du cycle cellulaire, donc on peut oublier ça. Mais si j'oublie cet effet-là, chaque bactérie croît comme ça. Quand elle se divise, ça ne change pas la loi de croissance parce que les deux filles vont croître à la même vitesse que la mère. Ça veut dire que le volume total de bactéries, c'est une somme des volumes qui croissent exponentiellement. Donc c'est un certain V0 exponentielle KT. Maintenant, si je suppose que la masse des bactéries croît comme n, le nombre de bactéries croît comme exponentielle lambda t, donc si j'écris que n quand je divise le volume par bactérie, le volume moyen V de t d'une bactérie, ça c'est grand V divisé par grand N, et il est proportionnel à exponentielle K moins lambda fois T. Maintenant, si les bactéries ne régulent pas leur volume, il n'y a aucun problème à ce que le volume moyen d'une bactérie croisse comme exponentielle K moins lambda fois T. Par contre, si le volume est régulé, la régulation du volume, son but, c'est que le volume moyen soit à peu près constant. Et écrire que le volume moyen est à peu près constant, ce n'est possible que si K est égal à lambda. Donc s'il y a du bruit uniquement sur le temps de division, et si les bactéries régulent leur volume, on doit trouver que K est égal à lambda. Il y a un seul cas que j'ai discuté où ce n'est pas vrai, ça, c'est quand alpha est égal à 0, parce que quand alpha est égal à 0, ce qui est régulé, ce n'est pas le volume, c'est le temps. Et donc le volume pourrait être complètement déconnecté du temps, et dans ce cas-là, le volume moyen des bactéries pourrait croître comme ça. Donc cette loi-là, elle n'est pas forcément vraie si alpha égale 0, mais dès que alpha est différent de 0, à condition que ma condition ici soit vérifiée, on doit trouver K égale lambda. Ce que ça veut dire, c'est que si on veut trouver un lambda qui est différent de K, ce n'est pas aberrant, mais il faut qu'il y ait des fluctuations de croissance dans la population. Donc il faut introduire des variations de K dans la population. Thank you. Donc ce que dit la théorie, c'est que, enfin, en tout cas celle d'Ariel Anir, c'est que si on fait les choses bien, s'il n'y a que des fluctuations du temps de division, il faut mettre des fluctuations de k pour que lambda soit différent de k. Alors quand je dis lambda différent de k, c'est lambda différent de k moyen maintenant, bien sûr, puisqu'il y a des fluctuations de k. Et ça veut dire que je ne peux pas appliquer cette relation-là, parce que si vous mettez une gaussienne là-dedans, j'ai même vérifié le calcul pour voir comment ça marchait, vous trouvez quelque chose de plus grand, et ça doit être égal à 0, la correction. Alors je vais vous montrer, c'est encore là, hein. Donc cette image-là, c'est dans sa population de bactéries. Donc ça, c'est les fluctuations. Alors ce qu'il appelle lambda, c'est ce que j'appelle k. C'est pas très malin, mais comme je l'ai appelé k depuis le début du cours, j'ai pas voulu changer. Et puis ça, c'est les fluctuations du temps. Si lambda est égal à 0, ce qui est tracé ici, là, c'est un heat plot de la corrélation du coefficient de variation entre le temps de division de l'étape n et le temps de division de l'étape n plus 1. Ça veut dire que c'est alpha sur 2. Et il choisit un adder, parce que dans toutes les expériences qu'il a dans la main, c'est des modèles d'addition. Ça veut dire que ce point-là, ça doit être moins alpha sur 2. Ça, peut-être, non, je l'ai effacé. Ça fait moins un quart, et ce point-là est égal à moins un quart. Et puis après, il rajoute là-dessus l'effet de la fluctuation du temps de croissance d'une bactérie, qui est cet axe-là. Ça, c'est des simulations numériques. Donc, il a repris un modèle de bactéries, il fait une simulation numérique de la croissance de la population. Ça, c'est ce que vous obtenez à partir de la loi d'Orwell. C'est Powell et pas Orwell. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis Orwell. J'ai des difficultés avec les noms. C'est O. Powell. Ça, c'est ce que vous obtenez à partir de la loi de Powell. Là, il n'y a pas de fluctuation du taux de croissance d'une bactérie. Donc, pour toutes les valeurs de mon paramètre alpha, le lambda est constant et est égal à 1 parce qu'il est normalisé par le taux de croissance du volume. Sauf à un point, qui est le point alpha égale 0, qui est exactement donné par ma loi qui est ici. Donc, ce point-là est donné ici. Et puis après, si vous calculiez ce qu'on obtient par cette loi-là, comme je vous disais, vous obtenez quelque chose qui croît et qui est pas mal plus grand que ce qui est mesuré expérimentalement. Donc s'il n'y a pas de fluctuation du taux de croissance d'une bactérie, ce que je vous ai affirmé semble correct dans les simulations, s'il n'y a pas de régulation du volume, en gros, les cellules sont décorrélées. Si les cellules sont décorrélées, mon argument ne tient plus. Si elles sont décorrélées, j'ai le droit d'appliquer la loi de Powell et je trouve cette loi de croissance ici. Maintenant, si vous prenez alpha différent de 0, il prend alpha égale 1,5 ici, vous trouvez quelque chose qui vous dit que le taux de croissance de la population est plus petit que le taux de croissance du volume d'une cellule. Et ça, c'est dû aux corrélations entre cellules et au fait qu'on n'a pas le droit d'appliquer cette chose-là. Bon, après, vous pouvez varier les fluctuations du taux de croissance en volume. Si c'est égal à 0, on doit trouver 1 à cause de ce raisonnement-là. Et puis quand vous l'augmentez, vous diminuez le taux de croissance de la population par rapport au taux de croissance moyen du volume des bactéries. C'est un résultat qui me paraît hautement non trivial. On a l'impression que le problème est très très simple. Ça dépend beaucoup de la façon dont on fait la mesure. En particulier, Amir rejette un article expérimental assez récent, hein, qui vérifiait parfaitement cette loi-là. Sauf qu'ils vérifiaient parfaitement cette loi-là, et Amir a remarqué qu'ils n'ont pas mis F de taux ici, dans l'expérience. Ils n'ont pas mis F de taux, et s'ils n'ont pas mis F de taux, ils ont mis le long d'une lignée. Et comme on a supposé que F de taux, c'était pour des cellules qui étaient aléatoires, ce n'est pas le long d'une lignée, parce que les cellules le long d'une lignée sont corrélées. Je vous ai même calculé la façon dont elles étaient corrélées. Donc il dit, la formule, elle marche, mais elle n'est pas appliquée correctement, donc ça ne sert à rien d'utiliser cette formule. Donc voilà un peu sur ce que je voulais vous dire sur ces problèmes de croissance de population. Il y aurait plein de choses à raconter encore, mais on va s'arrêter sur ce résultat qui, moi, me paraît très, très spectaculaire. On prend un quart d'heure de pause et puis on passe au séminaire de Gabriel Neuror. Merci beaucoup.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.